Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, la fête de la Pentecôte est une fête extrêmement importante puisque dans la liturgie catholique, elle est placée exactement au même niveau que la fête de Pâques, double de première classe avec octave de premier ordre. Pourquoi l'importance de cette fête ? Mais tout simplement parce que l'Église catholique est vraiment, strictement parlant, née aujourd'hui, en la fête de la Pentecôte. Donc l'anniversaire de la naissance de l'Église catholique. Bien qu'au sens large, beaucoup d'auteurs, beaucoup d'historiens considèrent que, beaucoup de théologiens considèrent que le début de l'Église catholique, en fait, c'est peut-être au sens large la fondation du monde, c'est-à-dire la fondation des hommes, avec la création d'Adam et Ève. Mais au sens strict, l'Église a vraiment commencé en tant qu'institution, si vous voulez, au dimanche de la Pentecôte. C'est le moment où le bon Dieu va donner à ses ministres, à ses disciples, à ses apôtres, les forces du Saint-Esprit. On voit très bien comment, pendant toute la prédication publique de notre Seigneur Jésus-Christ, bien sûr pendant la Passion, et même après, jusqu'à pendant ces 50 jours, entre la Pâque et la fête de la Pentecôte, comment les disciples étaient encore faibles, n'aient pas tout compris. Ils attendaient encore la restauration du royaume d'Israël immédiatement. Et le bon Dieu va donc leur donner le Saint-Esprit. Et par ce don du Saint-Esprit, par le don de ces 7 dons, justement, eh bien, d'un seul coup, ils vont être remplis de la lumière, la charité du bon Dieu. Et là, on voit un changement énorme. Pour bien marquer ce changement énorme, le bon Dieu fait participer naturellement, je dirais presque la nature à ces choses-là. Il y a un coup de tonnerre miraculeux, extraordinaire dans toute la ville de Jérusalem. Toute la ville se rassemble devant l'origine du bruit, donc la maison où résidaient, le lieu où résidaient les disciples qui avaient suivi, en quelque sorte, cette retraite depuis la fête de l'Ascension jusqu'à la fête de la Pentecôte. Et d'un seul coup, les apôtres sortent, Saint-Pierre ouvre les portes qui étaient fermées et donne son premier sermon. Et là, l'Église nous dit qu'il y a déjà, dès le premier jour, 3 ou 5 000 baptisés. C'est le début de l'Église. Et notre Seigneur Jésus-Christ, après leur avoir donné cette force du Saint-Esprit, les envoie à la conquête du monde. Allez, baptisez, prêchez. Celui qui sera baptisé sera, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et plus que jamais aujourd'hui, mes bien chers frères, il faut prêcher justement cette Église catholique, une sainte catholique apostolique et persécutée, hors de laquelle il n'y a pas de salut. Il n'y a qu'un seul Dieu, et puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'une seule Église, qu'un seul lieu dans lequel le sang de notre Seigneur Jésus-Christ est répandu sur l'autel pour le salut des âmes, et ce lieu, c'est l'autel catholique. Il ne peut y avoir de salut en dehors de l'Église catholique. Il ne peut même pas y avoir d'éléments de salut en dehors de l'Église catholique. Souvent, on entend dire par certaines personnes qu'il peut y avoir dans le protestantisme des éléments de salut. Il ne peut rien avoir en dehors de l'Église catholique. Seule l'Église catholique conduit au ciel. Parce que personne ne peut être sauvé sans notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il faut nous rappeler que cette Église est une sainte catholique et apostolique. Une dans son unité de foi, unité de gouvernement, unité de doctrine. La même foi, la même doctrine, le même gouvernement pour toute l'histoire de l'Église. Sainte parce que notre Seigneur Jésus-Christ est saint, parce qu'il y a la sainteté dans l'Église catholique, malgré le fait que bien des membres de l'Église catholique, dans leur humanité, évidemment, ne sont pas saints. Il ne peut y avoir, là encore, c'est une chose qu'il faut bien comprendre, il ne peut y avoir de sainteté véritable en dehors de l'Église catholique. L'Église est également catholique, c'est-à-dire universelle. Universellement pour tous les temps, toutes les personnes, tous les lieux. Il peut y avoir une église pour un certain pays, une autre église pour un autre pays. C'est une seule et même église pour le monde entier. Et enfin, apostolique, pour bien nous rappeler que l'église vient en droite ligne de Saint-Pierre, avec la succession des papes à partir de Saint-Pierre. Et surtout, l'apostolicité dogmatique, dans le sens que la doctrine enseignée par l'Église catholique aujourd'hui doit être exactement la même que la doctrine enseignée par Saint-Pierre, tel qu'il l'a reçu des mêmes hommes de notre Seigneur Jésus-Christ. Rappelons-nous aussi, vous connaissez ces pages du catéchisme, et qu'il faut rappeler constamment, tellement sont importantes, les conditions d'appartenance à cette Église. Saint-Pédis en donne 4 dans ce catéchisme. D'abord le baptême, bien sûr, puis aussi la foi et les œuvres de la foi, la charité. puis l'usage des sacrements, et enfin la reconnaissance du pape comme vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, le pape est quelqu'un qui a reçu de Dieu le privilège extraordinaire de l'infaillibilité, justement pour garder intact le dépôt de la foi. Et c'est précisément parce que ce dépôt n'est malheureusement plus gardé depuis pratiquement la mort du pape Pie XII en 1958 que nous ne pouvons plus reconnaître comme pape les gens qui sont actuellement sous le ciel de Pierre de façon indue. Eh bien, chers frères, comme il faut justement avoir cette conviction de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne pas avoir peur de l'affirmer, ne pas avoir honte de notre foi. Quelle tristesse de voir parfois certains catholiques qui ont presque honte de se dire catholiques, qui ont presque honte de dire qu'ils vont à la messe traditionnelle parce qu'ils sentent très bien que ça ne passe plus dans le monde moderne. Eh bien, tant pis si ça ne passe pas. Il faut continuer d'affirmer la vérité. Il ne peut y avoir de salut en dehors de notre Seigneur Jésus-Christ. Et si nous sommes convaincus de ces choses-là, nous avons absolument l'obligation, mes bien chers frères, j'irais sous peine de péché grave, de diffuser cette foi. Imaginez, prenons un exemple tout simple, imaginez qu'une épidémie épouvantable qui se répande dans un pays et que les gens meurent comme des mouches. Et voilà un médecin qui a découvert un vaccin, un remède miracle contre cette épidémie et qui se contente de garder ce remède pour lui-même. Il dit, moi je me protège, je prends ce médicament, je le donne à ma femme et à mes enfants, et ça suffit. Je sauve ma famille, c'est tout ce que je fais. Et qui refuse de donner ce médicament aux gens de la terre, aux gens du pays, qui sont eux aussi atteints par cette même maladie. Eh bien, ce médecin, mais bien chapeau, serait un assassin. Serait un assassin parce qu'il a le pouvoir de sauver les corps, il ne le fait pas. C'est la même chose pour les âmes. Si nous sommes convaincus que notre Seigneur Jésus-Christ est l'unique moyen de salut, la pierre d'angle, si vous voulez, en dehors de laquelle, encore une fois, personne ne peut être sauvé, et que nous ne prêchons pas l'Évangile, et que nous ne cherchons pas à diffuser cette vérité éternelle, nous sommes des assassins. Parce que nous ne donnons pas aux âmes ce dont elles ont besoin pour pouvoir se sauver. D'où l'importance, mes bien chers frères, de ce qu'on appelle l'esprit missionnaire, l'esprit apostolique, le prosélytisme. On dit ce mot-là dans le monde moderne, les gens poussent immédiatement des cris de putois. Donc, comment du prosélytisme? Mais bien sûr, du prosélytisme. Pourquoi? Parce que nous avons encore une fois le devoir de diffuser le bien doit se diffuser par lui-même, comme le dit saint Thomas d'Aquin. Et nous avons le devoir de diffuser la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que le bon Dieu nous donne les dons du Saint-Esprit. Certes, nous avons déjà reçu les dons du Saint-Esprit par le baptême. Nous avons reçu de nouveau, de façon encore plus forte sans doute, au jour de notre confirmation. Mais nous recevons aussi, en fait, tous les jours, et surtout aujourd'hui dans cette fête de la Pentecôte. Et ces dons du Saint-Esprit, c'est d'abord un feu. Un feu, qu'est-ce qu'il fait? Un feu, il est fait pour brûler. Imaginez c'est une autre comparaison qu'on peut prendre, les gens meurent de froid à l'extérieur à cause du climat, et puis il y a une personne qui a réussi à démarrer un bon feu, c'est une personne qui a du feu dans ce village et qui garde ce feu simplement pour lui-même et sa famille, qui refuse catégoriquement que les autres personnes du village viennent se chauffer auprès de ce même feu. Ce qu'il faut comprendre, c'est que même si il y a 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes autour du même feu, et tous peuvent être justement réchauffés par ce feu, parce que ce feu est pour tout le monde. Pareil pour nous dans l'Église, mes chers frères. Donc ayons ces convictions que nous avons le devoir d'être apostoliques, d'être missionnaires, d'avoir ce prosélytisme afin justement que notre Seigneur Jésus-Christ soit prêché, que notre Seigneur Jésus-Christ soit connu, que notre Seigneur Jésus-Christ soit compris, que notre Seigneur Jésus-Christ soit aimé. Rappelez-vous la belle phrase de Sainte Thérèse d'Avila que je vous cite souvent, « Mon doux sauveur n'est pas aimé parce que mon doux sauveur n'est pas connu. » Mon doux sauveur, on peut compléter la phrase en disant « Mon doux sauveur n'est pas aimé parce que mon doux sauveur n'est pas compris. » Et donc le Saint-Esprit, par ses sept dons, va nous aider à monter vers le bon Dieu. Nous avons tous, à cause du péché, une tendance naturelle à regarder la boue du péché, la boue du monde. Qu'est-ce que fait notre Seigneur avec ses dons du Saint-Esprit? Il nous pousse vers le haut, il nous oblige à regarder vers le haut, vers ce paradis, ce lieu dans lequel nous sommes tous attirés, nous sommes tous demandés un jour. Le bon Dieu nous attend là-haut, évidemment à condition d'être en état de grâce le jour de notre mort. Et donc le bon Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne ce Saint-Esprit précisément pour augmenter en nous cet amour du bon Dieu. L'amour du bon Dieu ne rentre pas dans nos âmes, mais bien chers frères, d'un seul coup, dans sa totalité en général. Il passe par degrés. Il y a d'abord ce qu'on appelle les trois voies de la vie spirituelle. D'abord, il commence par ce qu'on appelle la vie purgative, une certaine forme de purification qui est normale, impérative, avant que notre Seigneur puisse vraiment se développer dans une âme. Puis il va passer, il va nous monter en vie illuminative pour recevoir les lumières du Saint-Esprit. Et enfin, en vie unitive, en vie mystique, ce que les anciens appelaient le mariage spirituel. Et donc, les dons du Saint-Esprit ont d'abord pour but de nous faire connaître Dieu. Nous faire connaître Dieu. Et donc, il va y avoir tous ces dons du Saint-Esprit, comme le don de science, le don de force, qui sont là pour augmenter en nous cette connaissance. Mais malheur à nous, mes bien chers frères, si nous arrêtons la sainte connaissance de Dieu. C'est qu'il peut y avoir même une connaissance naturelle de Dieu. Même sans la foi catholique, naturellement, nous pouvons prouver et connaître donc l'existence de Dieu, l'existence d'une âme. Mais le Saint-Esprit nous veut absolument que nous montions plus haut que cela. Donc il veut que nous montions à la deuxième étape, l'illumination. Être en voie illuminative. Pourquoi en voie illuminative? Cette fois-ci pour comprendre Dieu. Certes, nous ne pouvons pas comprendre Dieu tel qu'il se comprend lui-même, c'est impossible. Même au ciel, ce n'est pas possible. Et plus on monte vers le bas Dieu, plus on comprend. Et il ne faut pas s'arrêter à la connaissance. Je pense qu'une des raisons de la catastrophe actuelle, avec tous les malheurs de l'Église de Vatican II, c'est le fait que beaucoup de catholiques, la plupart des catholiques des années 50 et 60, se sont arrêtés à la simple connaissance de Dieu. Il faut monter à sa compréhension. Prenons un exemple, encore une fois, tout simple, ce n'est pas des exemples qu'on comprend. Imaginez deux époux qui viennent de se marier. Ils se connaissent. Mais ça ne suffit pas. Il faut qu'ils apprennent à se comprendre. Ces deux époux se connaissent, chacun connaît le tempérament de l'autre parce qu'ils ont appris à le connaître pendant leur fiançailles. L'époux connaît le tempérament de son époux, de son épouse. L'épouse connaît le tempérament de son époux. Ils se connaissent, mais ça ne suffit pas. Il faut qu'ils apprennent à se comprendre. Il va falloir que l'époux apprenne doucement à comprendre comment son épouse pense, comment son épouse réagit à l'intérieur d'elle-même. C'est un grand mystère pour les hommes. Eh bien, il faut qu'ils apprennent à se comprendre. Et l'épouse doit aussi apprendre à comprendre qu'avec la différence de tempérament qu'elle a avec son mari, le mari ne va pas penser de la même façon. Les priorités pourraient être légèrement différentes sur certaines choses. Et même ça, ce n'est pas assez. Ils doivent augmenter les choses et après cette compréhension, quand cette compréhension augmente, ils doivent passer à l'amour du bon Dieu. Donc à la voie unitive, à la voie mystique. C'est ça qu'on appelle le mariage mystique. Et donc, le bon Dieu fait la même chose dans nos âmes. Il veut qu'on ne s'arrête surtout pas à la simple connaissance, pour qu'on passe à la compréhension, pour comprendre le bon Dieu autant que faire se peut ici-bas, afin d'arriver à s'unir avec lui, nous unir complètement avec lui, c'est-à-dire à l'aimer. Donc, première étape, c'est la connaissance. Deuxième étape, la compréhension. Troisième étape, l'amour. Malheur à ceux, les catholiques, qui s'arrêtent à la simple connaissance de Dieu. Malheur aussi à ceux qui s'arrêtent simplement à la compréhension du bon Dieu. Plus on comprend le bon Dieu, plus il faut l'aimer. Il faut mettre ces choses en nous pour surnaturaliser les choses. Dans les mariages, c'est très important. Souvent, les gens nous disent, monsieur l'abbé, je connaissais mal mon mari au début, maintenant je comprends, et plus je le comprends, moins je l'aime. C'est qu'il manque quelque chose. Il faut qu'au contraire, cette compréhension qui augmente, sanctifiée par la grâce sanctifiante et la grâce sacramentelle que vous avez reçue le jour de votre mariage, vous aide par cette compréhension à passer la troisième étape. C'est dire à l'amour du bon Dieu. Sinon, on se décourage complètement. Oui, mais bien, chers frères, toutes ces choses sont tellement, tellement importantes, précisément pour nous aider à augmenter en nous l'amour du bon Dieu. Qu'est-ce que veut le bon Dieu en ce jour de la Pentecôte? Il veut se donner à nous par les dons du Saint-Esprit. Et ces dons du Saint-Esprit, donc, par ces dons du Saint-Esprit, il va nous aider à monter. Avec la deuxième étape, qui est l'étape de la compréhension du bon Dieu, de la vie illuminative. Donc, ce sont surtout peut-être les dons de science et d'intelligence qui vont travailler. Mais le but, c'est le don de sagesse. Le don de sagesse, c'est l'union mystique à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le don de sagesse, c'est le don de crainte de Dieu, c'est le don de piété qui nous oblige à garder la tête vers le bon Dieu, toujours. Et si tant de gens aujourd'hui perdent la foi, mais bien c'est vrai, c'est précisément pour cela, parce qu'ils s'arrêtent en route. Le bon Dieu nous demande de monter vers lui, le bon Dieu nous demande d'ouvrir la porte de nos âmes vers lui. C'est d'ailleurs la signification du mot don du Saint-Esprit. Saint Thomas d'Aquin explique très bien que les dons du Saint-Esprit nous obligent à ouvrir, à amplifier, si vous voulez, l'ouverture de la porte. La porte de notre âme est ouverte par le baptême, mais n'est pas encore ouverte complètement. Et très souvent, dans le monde moderne, on a tendance à refermer la porte, justement, à cause de la tentation du monde moderne. Et alors, qu'est-ce que va nous demander le bon Dieu? Le bon Dieu va nous demander, par les dons du Saint-Esprit, c'est comme la petite goutte d'huile qui est mise dans les gonds. Imaginez une porte qui ne s'ouvre pas ou très mal, parce que les gonds sont rouillés. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Les dons du Saint-Esprit représente la goutte d'huile qui est mise dans les gonds, sur les gonds, pour que l'huile élimine et nettoie le gond, pour que la rouille du gond disparaisse. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Une fois que la rouille a disparu, on peut ouvrir la porte. La porte s'ouvre et le bon Dieu peut rentrer. Comment voulez-vous que le bon Dieu rentre dans une âme si on garde notre âme à peine entrouverte, tout simplement parce qu'on a peur que le bon Dieu rentre dans notre âme et nous demande un certain nombre de changements dans nos âmes. Donc demandons, mes bien chers frères, demandons en ce jour de la Pentecôte, demandons ces grâces extraordinaires que le bon Dieu est prêt à nous donner. Mais encore une fois, il faut savoir les demander. Rappelez-vous qu'il a exigé, c'était un mystère, mais c'est comme ça, il a exigé qu'on demande, demandez et vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Sous-entendu, ben, si vous ne voulez pas demander, si vous ne voulez pas frapper, si vous ne voulez pas chercher, eh bien vous n'aurez rien du tout. N'oublions pas, mes chers frères, que la plupart des dons, des grâces du bon Dieu sont des grâces conditionnelles. Il y a les bons Dieu les donne à condition qu'on fasse l'effort de savoir les demander avec humilité. On voit très bien, même chez les apôtres, notre Seigneur Jésus, ils avaient encore cette faiblesse au début, ils n'avaient pas tout compris. Une fois qu'on a compris que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu, une fois qu'on a compris que l'Église catholique à laquelle nous appartenons par le baptême est l'unique Église catholique en dehors de laquelle il n'y a pas de salut. C'est une fois qu'on a compris qu'il ne peut y avoir la moindre valeur de salut en dehors de l'Église catholique, qu'est-ce qu'on fait? On n'a plus qu'une idée, c'est ouvrir la porte et prêcher notre Seigneur Jésus-Christ. Que par notre façon de vivre, notre façon de nous habiller, notre façon de nous comporter, notre comportement professionnel, notre comportement social, notre comportement familial, les gens puissent voir la façon dont on vit et être tentés de regarder au-delà du ciel. Les gens qui nous entourent, les millions de gens dans le monde moderne, sont complètement perdus devant Dieu. Qu'est-ce qu'ils regardent? Ils boue toute la journée. Donc ils ont l'impression que la seule chose qu'il y a dans ce monde moderne, c'est la boue. Ils se vautrent là-dedans parce qu'ils ont l'impression qu'il n'y a rien d'autre. Si justement autour d'eux, ils ont quelques catholiques qui utilisent les dons du Saint-Esprit, n'oublions pas que les dons du Saint-Esprit ne peuvent être utilisés que si nous sommes en état de grâce, eh bien, s'ils ont autour d'eux des catholiques qui sont qui vivent dans l'état de grâce, qui utilisent les dons du Saint-Esprit, ces catholiques sont comme un feu extraordinaire, une lumière extraordinaire qui brille dans le monde, qui brille dans la nuit. Alors, ces gens qui vivent dans la boue vont regarder un peu à côté de ça, ils vont voir qu'il y a autre chose que ça, il y a autre chose que cette boue. Et ils vont être tentés, justement, de sortir de la boue. Et à ce moment-là, avec l'aide des dons du Saint-Esprit, l'aide de la grâce sanctifiante, l'aide des sacrements, sous le sacrement de pénitence, le sacrement de la Sainte Eucharistie, ils vont arriver à monter vers le bon Dieu. Voilà ce qu'il faut demander, mes bien chers frères. C'est ce feu de la charité du bon Dieu, ce feu des dons du Saint-Esprit qui brûlait dans le cœur des apôtres. Vous connaissez même d'autres exemples, comme par exemple Saint François Xavier, un tout premier compagnon de Saint Ignace de Loyola. Donc au XVIe siècle, ces écrivains, ces historiens disent qu'il a baptisé de sa propre main 1 million d'âmes. 1 million d'âmes baptisées à la main, une par une, par Saint Ignace, par Saint François Xavier, avec toute la préparation que cela entraîne. Et d'aller à pied littéralement jusqu'aux portes de la Chine, aux portes du Japon. Pourquoi? Parce qu'il était illuminé précisément par ces dons du Saint-Esprit. Et tous ces grands saints qui avaient ces lumières du Saint-Esprit en eux, qui illuminaient les autres. Comme ce protestant anglais qui va voir le Saint Curé d'Ars, parce qu'il a entendu parler de lui, par curiosité il y va, et quand il revient, après avoir passé quelques jours auprès du Saint Curé d'Ars, ses amis anglais lui demandent « Qu'est-ce que vous avez vu ?» Et il a répondu « Je suis allé voir un homme et j'ai vu Dieu. » Je suis allé voir un homme et j'ai vu Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a compris la lumière du Saint-Esprit qui brille dans ce cœur de ce prêtre, c'est la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ. Faire la même chose avec nous, mes bien chers frères. Nous aussi, nous sommes appelés à ça. N'oublions pas, enfin, dernier détail, qui n'en est pas un, enfin, c'est que les dons du Saint-Esprit ont été donnés par l'intermédiaire de Notre-Dame. Tous les pères de l'Église ont bien marqué que la très sainte Vierge de Marie était là, dans l'endroit où... la chambre haute où les disciples étaient rassemblés. Donc tous les dons du Saint-Esprit, tous sont passés par l'intermédiaire de la très sainte Vierge Marie. Elle est médiatrice de toutes les grâces. et les dons du Saint-Esprit étant bien sûr une grâce extraordinaire, les dons du Saint-Esprit passent par elle. Elle est médiatrice des dons du Saint-Esprit. Elle est co-rédemptrice du genre humain par l'infusion du Saint-Esprit. Donc demandons à notre Sainte Vierge Marie, mes bien chers frères, toutes ces grâces. Elle les avait reçues, elle, bien sûr, à profusion, puisqu'elle était pleine de grâce, n'ayant pas le péché originel. Cependant, c'est par elle, encore une fois, c'est par elle que nous arrivons aux grâces du bon Dieu. Donc demandons avec humilité cette grâce de l'amour de notre Sainte Vierge Marie. Il n'y a pas d'amour du bon Dieu, il n'y a pas d'amour des dons du Saint-Esprit sans passer par l'amour de la Sainte Vierge. C'est impossible. Parce qu'elle est encore une fois celle qui nous a donné son Fils. Donc c'est par elle qu'il faut passer pour arriver au Fils. En demandant, durant ce mois de mai, demandons la grâce de savoir aimer, de savoir là aussi connaître, comprendre et aimer davantage notre Sainte Vierge Marie. De même qu'il faut connaître, comprendre, aimer davantage l'Église catholique pour pouvoir connaître, comprendre et aimer davantage notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. À ce moment-là, nous comprendrons que nous sommes faits pour le ciel. Nous sommes des êtres faits pour le ciel. J'ai été créé pour louer, honorer et servir Dieu et sauver mon âme. C'est la première phrase d'exercice Saint-Ignace. En demandant, mes bien chers frères, toutes ces grâces, avec beaucoup d'humilité, mais en même temps beaucoup d'amour du bon Dieu, par l'intermédiaire de notre Sainte Vierge Marie, à notre Seigneur Jésus-Christ, qui est haut du ciel, utilisant la messe comme le moyen de nous donner ces grâces, nous obtiendra toutes ces grâces dont nous avons tant besoin. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.